Il fait froid, il fait très froid. Ça fait longtemps qu'il faisait pas aussi froid. Et je vous souhaitais cette nouvelle année, en tout cas, mes meilleurs vœux, nos meilleurs vœux avec ma femme. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Je pense que déjà, on vous a souhaité beaucoup de choses. Moi, ce que je peux vous souhaiter, comme je pense durant toute l'année, c'est que vous vous rapprochiez encore plus du Seigneur. C'est tout ce qui compte. On peut entendre, et vous avez entendu comme moi, hein, début d'année est déjà assez chargé, et c'est pas forcément des bonnes nouvelles, et l'année 2026, ça s'annonce pas forcément plus réjouissante que 2025, mais nous avons une espérance qui est dans le Seigneur. Et ce que Dieu nous demande, c'est de s'accrocher à lui, et c'est tout ce qui coûtera, en tout cas, qui comptera en tout cas pour nous, et qui nous permettra de pouvoir prendre de la hauteur, du recul. Amen. En début de chaque année, peut-être que vous en faites partie, hein, beaucoup de personnes prennent des résolutions. Ça peut être mieux manger, surtout après avoir passé de bonnes fêtes ou d'avoir une année peut-être où on s'est peut-être fait plaisir. On se dit, allez, on va trouver un peu d'équilibre dans le repas, faire du sport, moins travailler ou au contraire plus travailler, passer plus de temps en famille, bref. La liste ici des résolutions sont longues. Et je ne sais pas si vous en avez pris ce matin. Mais plus on avance dans l'âge, je ne sais pas pour vous, mais plus on se dit, bon, si je prends des résolutions, à chaque fois la moitié, voire tout tombe à l'eau. Et quand on fait le bilan, on se rend compte finalement qu'on n'a pas tenu grand-chose. Donc, et des fois, ça peut être décourageant. Et il y a un pasteur qui racontait à son église qu'un jour, il y a un homme de son église, du coup, qui lui avait dit, cette année, voilà, je vais vraiment me recentrer sur Dieu, mais pas tout de suite. Parce que je sais que tout de suite je pourrais pas, donc d'abord je dois régler certaines choses importantes dans ma vie, et 12 mois plus tard, rien n'avait changé. Et du coup c'est intéressant parce qu'il lui avait reposé la question, et cet homme il n'était pas en opposition par rapport à Dieu, simplement ses priorités étaient mal ordonnées. Et c'est le message de ce matin, c'est mon titre, Dieu en premier ou plus tard. Je sais pas si tu as réussi Laïna, avec la diapo. Dieu en premier ou plus tard, quelque part, est-ce que dans nos vies, en ce début d'année, Dieu est en priorité ou est-ce qu'il fait partie de la longue liste des priorités de nos vies? Et où on peut venir le dimanche, hein, d'ailleurs, sans que Dieu soit forcément la priorité, c'est pas qu'on est contre Dieu, mais c'est que Dieu fait partie de la liste longue de la longue liste des tâches que nous avons dans nos vies. Et quelque part, voilà, on peut tomber dans ce côté chrétien culturel. Je vous propose ce matin de prendre un texte qu'on lit très rarement, voire même jamais. C'est le prophète Agée. Vous connaissez Agée? C'est pas être âgé, hein. C'est pas un livre qui nous parle, est-ce qu'on, quand on sera âgé, qu'est-ce qui se passera? C'est un petit prophète qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et dans le livre d'Agée, il est exactement question de cette situation, la question des priorités. Est-ce que Dieu est notre priorité ou est-ce que c'est notre priorité plus tard? La question de Agée, ce n'est pas si Dieu c'est important pour nous. La réponse, elle est oui. Mais si cette importance, elle est capitale ou elle est importante comme d'autres choses qui peuvent être tout aussi importantes. Et je vous propose du coup de lire Agée. Alors, on va lire le premier chapitre, il est assez long. On va partitionner notre lecture. Pas non plus que je vous perds dès le début de l'année. Donc je vous propose d'ouvrir du coup le livre d'Agée au chapitre 1. Dans l'Ancien Testament, c'est les petits prophètes. Donc juste avant le Nouveau Testament, vous avez du coup la liste des petits prophètes. Je vous laisse le temps de prendre et de chercher. Ça risque peut-être de prendre un peu de temps ce matin pour chercher, mais je vous encourage en tout cas à ouvrir vos Bibles, puisque du coup on aura une lecture assez poussée, en tout cas de ce premier chapitre que nous allons étudier et découvrir. Agée chapitre 1. Alors pendant que vous cherchez, je vais quand même poser le contexte. Quel est le contexte de ce livre? Est-ce que quelqu'un sait? Allez, je vous pose la question. Bon, c'est un peu difficile ce matin parce qu'on n'est pas dans les évangiles, hein. C'est un texte peu connu. Est-ce que quelqu'un sait le prophète Agée quand il écrit? Quelle est la situation du coup à ce moment-là? Allez-y, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Le peuple a été déporté, effectivement. Oui. Tout à fait. En fait, le peuple a été déporté. Alors, quand on parle de déportation, c'est quoi? C'est que dans l'Ancien Testament, Dieu va donner une alliance. Et il va demander au peuple, du coup, de rester fidèle à Dieu, ce que le peuple ne va pas faire. Ils vont désobéir pas une fois, pas deux fois, mais à multiples reprises. Et le peuple va être déporté. Deux fois. Et là, c'est la deuxième fois. Et c'est pas les Babyloniens, c'est la première fois. Là, c'est les Perses. Perses, du coup, qui sont un empire les plus puissants de l'époque, que Dieu va utiliser, qui va appeler mon outil, que j'utilise pour éduquer mon peuple. C'est une phrase terrible, hein. Et le peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va envoyer plein de prophètes, des petits prophètes. Il y a aussi des grands prophètes avec Jérémie, Daniel, mais il y a aussi des petits prophètes qui vont s'enchaîner. Et le peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Alors qu'ils sont loin de Dieu, ils ne vont pas écouter. C'est ce qui est terrible. Ils ne comprennent pas la leçon, ils vont râler. Et il y a Agé qui arrive. Et à ce moment-là, le peuple, le roi perse, les autorise à revenir du coup en Judée, à Jérusalem, notamment pour la reconstruction ici de la ville et du temple. Et c'est à ce moment-là que nous sommes. Du coup, Agé, quand on arrive au livre d'Agé, le peuple est déjà en partie revenu au pays. Et il va dire ceci, c'est le premier verset, « Le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison de l'Éternel. » Leur maison avance, mais la maison de Dieu reste en ruine. Et je vous propose du coup ici de lire du coup ce premier chapitre, vous l'avez trouvé, chapitre 1, et on va lire juste les quatre premiers versets pour commencer, et c'est ma première partie, on va voir trois diagnostics ce matin, ce sera mes trois points. La première, c'est mon premier point, c'est des excuses spirituelles bien raisonnables. Pour ne pas passer du temps avec Dieu, on a toujours des excuses. Et le peuple, il en avait. Et c'est ces quatre premiers versets, et je vous propose du coup de commencer notre lecture. « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent le temps n'est pas encore venu, le temps où le temple de Dieu doit être rebâti. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées alors que ce temple est en ruine ?» Le peuple dit « Le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de Dieu. » Le peuple ne dit pas « Nous ne voulons pas » ou « Nous n'aimons pas Dieu » ou « Dieu ne compte pas ». Il dit simplement « Pas maintenant ». Maintenant, c'est quoi qui compte? C'est de rebâtir nos maisons. Ma priorité, c'est ma maison, c'est mes projets de famille. Dieu, on n'est pas contre, mais ce sera plus tard. Et qu'est-ce qui empêche bien souvent les croyants de faire passer Dieu en priorité? Est-ce que c'est le péché? Est-ce que c'est le manque de foi? Ou simplement, quelque part, les priorités? Et bien souvent, c'est les priorités. Nos priorités ne sont pas très bonnes. Et quelque part, Dieu fait partie de la longue liste des priorités. On dit qu'on aime Dieu. Et je pense qu'on est sincère, hein. Et je me mets dedans, hein. On est tous dedans là-dedans. Et en fait, Dieu... Entre ce que je proclame et ce que je vis, Dieu n'est pas au centre. Je dis à Dieu plus tard. C'est ce que le peuple va faire. Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est toujours un péché de dire à Dieu pas maintenant? Oui, alors après, on peut se dire, et je pourrais répondre, d'accord, et on peut dire, peut Dieu pas passer en premier? Et effectivement, dans nos vies, il doit passer en premier. Mais on peut se trouver, nous, des arguments. Pour se dire, Dieu ici, j'aime Dieu, mais quelque part, Dieu me comprendra si je passe plus de temps. Là, l'exemple du peuple, c'est de rebâtir sa maison. Peut-être que certains Israélites se disaient, si je rebâtis ma maison, je serais peut-être plus disposé à adorer Dieu. Le vrai problème ici des Israélites, c'est pas qu'ils rebâtissent leur maison. Parce que rebâtir sa maison, c'est quand même important. Hein. On parle pas ici de, je sais pas, d'aller aux Bahamas ou d'aller en vacances. Hein. Le peuple d'Israël n'a plus rien. Ils rebâtissent une maison, qui est Dieu pour ne pas considérer que ce n'est pas une priorité? D'ailleurs, Dieu les laisse reconstruire leur maison. Le vrai problème ici du peuple, c'est que le pas maintenant, il dure depuis 16 ans. C'est pas ils viennent de revenir au pays, ils ont reconstruit la maison, et Dieu leur dit tout de suite, rebâtissez le temple. Dieu les laisse reconstruire leur maison. Bah, Dieu sait les priorités. Et que rebâtir une maison et ne vivre à la rue, c'est pas ce qui est le plus normal. Mais c'est que le pas maintenant du peuple, il dure depuis 16 ans. Ça fait 16 ans qu'ils sont revenus au pays, qu'ils reconstruisent leur maison, et que le temple de Dieu, lui, est laissé à l'abandon. Le vrai problème, il est là. Du coup, le fait qu'ils rebâtissent leur maison, et quelque part, c'est pas mauvais. Mais c'est que le temps qu'ils mettent ici montre quelque part la priorité, ce n'est pas Dieu. Ça peut durer 16 ans, du coup ça peut même durer 20 ans, 30 ans. Dieu ici est dans leur tête, mais en fait il n'est jamais là. Et Dieu pose une question très simple au verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, tandis que cette maison qui est mon temple est en ruine? Le problème n'est pas qu'ils aient une maison, le problème c'est l'ordre. Ils ne manquent pas de temps, ils ont le temps. Ils ne manquent pas de ressources, on le verra plus tard, ils ont les ressources. Ils ont simplement réorganisé leurs priorités, ils ont avancé leurs projets et laissé Dieu attendre. J'aime bien la question de Dieu, il dit « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons ?» Il ne s'arrête pas là, vos maisons lambrissées. Le peuple a eu le temps de construire de belles maisons. Ils sont sur les finitions, et ils n'ont pas fini. Hein. Et quelque part, Dieu leur dit, bon, ok, je vous ai laissé le temps, ça fait 16 ans maintenant, et pourtant, le temple, la relation à Dieu ici, elle n'est toujours pas là. Et Dieu a été patient, hein. 16 ans quand même. Hein. 16 ans avant qu'il envoie un prophète. Et on voit ici un Dieu qui n'est pas ici hors contexte et qui ne comprend pas, en tout cas, nos raisons humaines. Dieu vit, il sait ce que nous vivons. Il sait nos besoins. Et Dieu n'est pas contre le fait que les Israélites bâtissent leur maison. Mais il est fait que le pas maintenant des Israélites, il dure depuis trop longtemps. Alors pour nous, parce que là vous pourrez me dire, ok c'est intéressant tout ça, c'était il y a plus de 3000 ans, mais pour nous, qu'est-ce que c'est le temple pour nous aujourd'hui? Je vous pose la question. Notre corps? Ouais, autre chose? Alors, notre foi, ou tout ça, ça en fait partie. Sa présence dans nos vies. Alors, vous savez bien, vous vous rejoignez un petit peu tous. En tout cas, dans la parole de Dieu, le temple ici, et dans le Nouveau Testament, c'est très clair, ce n'est plus un lieu, la Bible va dire, vous êtes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous, et c'est Paul qui va dire ceci aux Corinthiens, nous sommes le temple du Seigneur. Mais elle précise presque aussitôt, et ça on l'oublie souvent, que en lui, en Jésus, tout l'édifice devient une habitation de Dieu. Nous sommes le temple, mais jamais sans le Christ. Notre temple ici est habité par le Seigneur. Nous ne sommes pas le centre du temple, c'est le Christ qui l'est. Alors concrètement, on a dit, on sait maintenant c'est quoi le temple, c'est nous. Du coup, qu'est-ce que ça signifie ne pas rebâtir le temple aujourd'hui, comme pour le peuple? Mettre de l'ordre dans notre vie, ouais. Autre chose. Prendre soin de ce temple, concrètement. Du coup, prendre soin de son corps, ça veut dire faire du sport, ça veut dire quoi? Ouais. Ouais, c'est très juste, mais concrètement, imaginons on a des enfants là ce matin. Le mettre dans tous nos projets. Ouais, déjà là, ça parle un peu plus. Le mettre dans tous nos projets. Ouais. Comment on peut résumer tout ça? Entretenir notre relation à Dieu. En fait, ici, ne pas rebâtir le temple, qui est ici nous-mêmes, hein, ce n'est pas enlever le Christ de notre vie. Ce n'est pas cela. Le peuple d'Israël, il n'a pas enlevé Dieu. Il n'était pas contre Dieu. C'est qu'il vivait comme si Dieu n'était plus au centre. Dieu est au centre seulement quand il y a des grosses difficultés, mais il n'est pas au centre, ici, du cœur de Dieu, du peuple. Et y compris pour nous, du coup, c'est dire quelque part qu'on néglige ici le Seigneur. Nous sommes le temple. Ce temple, il est toujours là. Dieu habite dans ce temple, mais on lui a laissé la petite place du temple. Ce temple, il est négligé. Dieu n'habite pas vraiment dans ce temple, et du coup, un temple sans le Christ, c'est un temple qui ne sert à rien. Ou un temple, plutôt, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le dire, où on a un Christ diminué, où Dieu n'est pas pleinement présent. Quelque part, ça ne sert à rien. Et Dieu ici ne prendra pas la place si nous ne lui laissons pas la place, le centre ici de nos vies. C'est croire quelque part en Jésus, mais organiser notre quotidien sans le laisser décider des priorités. Et Dieu ici doit décider nos priorités, doit être le maître, comme vous l'avez dit, dans chacune de nos décisions, chacun de nos projets. Quelque part, c'est bâtir nos projets, nos sécurités, nos habitudes, pendant que la présence de Christ et de Jésus est reléguée à l'arrière-plan. Combien de fois, mes frères et sœurs, nous agissons comme cela ? Beaucoup de fois. Hein. Moi, je repense, alors ça arrive, hein, ça nous arrive, on aime Dieu, et sur le moment présent, quand il faut prendre des décisions, on va réfléchir de manière très humaine, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Et en fait, bien souvent, en tant qu'être humain, on place Dieu dans la balance quand on n'a plus le choix. Quand intellectuellement, on est coincé, là, on revient au temple et on se dit, il est où Dieu ? Je l'ai mis où ? Et là, on vient le chercher. Et c'est ici ce que le prophète Agé reproche au peuple. C'est ce que Dieu reproche au peuple. C'est d'utiliser Dieu juste quand ça ne va pas. Dieu a permis pourtant qu'il retourne en Judée, et le peuple a compris, c'est pour ça qu'il retourne, et que Dieu permet qu'il retourne, il a compris qu'il faut qu'il reste fidèle à Dieu, mais du coup, ils lui ont accordé une place beaucoup moindre. Dieu, on l'aime bien, mais avant quand même, j'ai d'autres choses dans ma vie, j'ai d'autres priorités, d'autres choses que je dois construire, d'autres habitudes. Ne pas rebâtir le temple, c'est donc être le temple de Dieu, mais laisser notre relation à Dieu en ruine. Avoir la présence ici de l'Esprit, mais sans lui laisser toute la place. Vivre une foi réelle. C'est pas vivre une fausse foi, c'est vivre une vraie foi. Mais différée, compartimentée, marginalisée. Paul va prier d'ailleurs, c'est intéressant, dans le Nouveau Testament, va prier pour des chrétiens déjà convertis. Il va leur dire ceci aux Éphésiens, que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Parce que les Éphésiens, ils avaient le même problème que les Israélites. Dieu était une priorité parmi tout le reste. Cela signifie que Christ peut habiter en nous sans encore habiter pleinement en nous. J'ai résumé du coup la question, qu'est-ce que ça signifie ne pas rebâtir le temple aujourd'hui par cette citation ? Ne pas rebâtir le temple aujourd'hui, ce n'est pas enlever Christ de notre vie, c'est apprendre à vivre sans lui, laisser toute la place. Dieu ici est un élément de nos vies, mais que l'on peut enlever, ce n'est pas le centre. Et je nous pose la question ce matin, est-ce que Dieu est différé ? Est-ce que le royaume passe après notre confort ? Est-ce que Christ est véritablement au centre ou sur liste d'attente ? Et cette liste d'attente, ça fait peut-être, j'espère pour vous, pas 16 ans, mais si c'est le cas, c'est jamais trop tard. En tout cas, aujourd'hui, il est bon de commencer l'année en se disant « Seigneur, je veux te remettre au centre de ma vie. » Au-delà de tous les projets que j'ai envoyé ce verset-là à tous mes contacts presque. C'est ce verset qui va dire « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. » Et les hommes ici ont plein de projets. C'est un autre verset qui revient aussi. Ils ont plein de projets. Mais c'est les plans de l'Éternel qui s'accomplissent. En 2026, peut-être que vous avez plein de projets, et c'est bien d'avoir des projets, mais Dieu seul reste souverain. Et si on ne le met pas au centre, on risque d'être dans la déception, dans l'amertume, dans la frustration. Le deuxième point, et je vous propose du coup de lire les versets 5 à 11. Deuxième point, j'ai intitulé ce point-là « Une vie frustrée malgré beaucoup d'efforts ». Verset 5, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc bien ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez sans être rassasié et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé. Et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai du plaisir, j'en serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait ? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie, voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits. C'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les monts, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail, sur tout le fruit de vos travaux. Beaucoup d'efforts, peu de fruits. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Et Dieu va dire par deux fois, réfléchissez bien à ce qui vous arrive. Ici, Dieu fait une discipline, la pédagogie du vide. Il laisse les Israélites faire sans lui, et que les Israélites constatent finalement qu'ils récoltent peu. Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement, et ça fait 16 ans qu'ils triment, et ils récoltent très peu. Vous pourrez lire du coup d'ailleurs tout le contexte hein, des Israélites qui galèrent, c'est le livre d'Esdras. Ça se passe au même moment que Agé. Et on voit un peuple ici qui fournit beaucoup d'efforts, mais pour peu de résultats. Et nous, nous pouvons aussi finalement vivre les mêmes choses, travailler beaucoup, gagner de l'argent, mais rien ne satisfait vraiment. Une activité quelque part sans fécondité, un mouvement sans accomplissement. Est-ce que, à votre avis, c'est possible d'être très actif et pourtant spirituellement à côté de la volonté de Dieu ? Ouais, c'est malheureusement possible. Un exemple dans la Bible, c'est l'exemple dans Jean, avec la pêche miraculeuse avec Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage. Les disciples ici vont pêcher durant toute la nuit, par leurs propres efforts, ils ne vont rien obtenir. Pourtant, c'est des pêcheurs qui sont expérimentés, c'est leur métier, c'est des professionnels de la pêche. Et ils n'obtiennent rien, une nuit entière de travail pour rien. Et puis Jésus va intervenir, il va leur dire de jeter les filets sur le côté droit, le même travail, le même filet, les mêmes hommes. Et les filets vont être pleins à craquer. C'est la différence ici, quelque part, c'est peut-être l'illustration que Agé aurait pu employer, de quelqu'un qui fait confiance au Seigneur dans sa vie et celui qui ne le fait pas. Dieu ne dit pas « vous êtes puni parce que vous êtes méchant », c'est pas ce qu'il dit hein, dans le texte. Il dit « je vous parle à travers ce que vous vivez. Parce que vous ne m'écoutez pas, je parlerai à travers vos priorités à vous. » Pour vous montrer que les priorités que vous avez, quelque part, c'est moi qui les... c'est moi Dieu. C'est moi qui suis souverain. Si vous ne comptez pas sur moi et que vous comptez uniquement sur vous, ça ne marchera pas. Ce n'est pas une condamnation ici, c'est une discipline paternelle. Lui est un tendre père ici, et on le voit, hein, ça fait 16 ans, Dieu a attendu quand même. Hein. Il a attendu que le peuple réalise par lui-même, ils ne l'ont pas fait. Et il envoie Agé, et Agé ne va pas les condamner. Il va leur parler, alors c'est sûr que ça dérange hein, ce qu'il dit, mais pour qu'ils se remettent en question. Je vous pose la question ce matin, est-ce que vous courez beaucoup, mais sans paix ? Si c'est le cas, la prochaine année qui arrive, elle ne changera rien. Vous pourrez continuer à courir, avoir beaucoup de projets, sans vivre dans la paix, ou sans voir du fruit dans ce que vous semez. Est-ce que quelque part je bâtis ma vie chrétienne sans Dieu au centre ? Du coup, je cours. Je cours et je me fatigue et je ne comprends pas pourquoi. Et Dieu qui va dire ceci comme au peuple, réfléchis à ta vie. Aujourd'hui, c'est le temps de réfléchir à ta vie. Combien de fois nous avons essayé par nous-mêmes, combien de fois nous avons fait des efforts sincères, prier un peu, travailler beaucoup et pourtant sans fruit durable. Ça vous est déjà arrivé ça ou pas? Je suis tout seul. Je pense que ça nous est tous arrivé. Hein. D'un moment de se dire, Dieu, on l'aime bien, mais il y a des choses dans ma vie, allez, j'avance tout seul. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Et à un moment, c'est quand je suis au bout du bout que je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe là? Et là, Dieu qui est là, il dit, coucou, je suis là depuis un moment, là, donc c'est bien que tu te réveilles. Et il est temps, mes frères, ici, de mettre Dieu au centre. Alors, par nos propres efforts, c'est impossible. D'ailleurs, Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans le Nouveau Testament, la présence du Seigneur se manifeste ici par le Saint-Esprit. Saint-Esprit que Dieu nous donne. Pouvoir ici avancer, non pas par nos propres efforts, mais avec son aide. C'est Zacharie, un autre prophète. Un autre prophète qui va dire ceci dans Zacharie 4, n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Comptez sur l'aide de Dieu. Que dans nos entreprises, dans nos projets, dans notre avancement avec Dieu, quelque part, Dieu puisse avancer pour nous, faire pour nous. Le livre d'Esdras, il est très beau, puisque alors, vous pourrez le lire, je vous encourage à lire, hein, ça permet d'avoir un autre recul. Quand le peuple va mettre Dieu au centre, il y a des déclics qui vont s'enclencher. Au niveau de la construction des murailles, au niveau de la construction de la ville, le peuple va engranger beaucoup plus. Mais on se rend compte que quelque part, le peuple ne fait rien. C'est Dieu qui va faire. C'est Dieu ici qui va étendre sa main et qui va bénir. Rebâtir le temple aujourd'hui, mes frères et sœurs, que ce soit assez clair, hein, ne consiste pas à faire plus d'efforts spirituels, ou plus d'efforts personnels. Vous pourrez le faire, hein. Mais si vous le faites, vous allez voir que vous allez flancher. L'année et la vie est longue. Ce que Dieu nous attend et nous demande, quelque part, c'est de le remettre au centre, de compter sur lui. Alors si vous ne faites aucun effort, il faut quand même en faire un minimum, hein. La vie chrétienne, c'est aussi être discipliné. Mais il n'y a pas que la discipline. Dieu nous demande quelque part de compter sur son aide, de compter sur sa force. Ce n'est pas se surpasser, ce n'est pas se discipliner plus, sauf si on n'a aucune discipline, c'est se soumettre plus, c'est différent. Ça, on aime moins, se soumettre plus, parce que Dieu, des fois, nous demande des choses que nous ne voulons pas. Pourtant, nous savons que nous avons un Dieu qui nous connaît et qui ne nous lâchera pas. Avoir quelque part une dépendance réelle au Saint-Esprit, une dépendance réelle à Dieu. Ça va? Oui, Gilles. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, c'est ce que Dieu nous demande ici. C'est que quelque part, être le temple ici de Dieu, c'est que lui prenne ici toute la place de nos vies. Le dernier point, c'est un appel à remettre Dieu au centre. Avec une promesse derrière, et c'est les versets 12 à 15. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yehotsak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de Dieu. Ils écoutèrent les paroles du prophète Agé que l'Éternel leur Dieu leur avait envoyé, et le peuple révéra l'Éternel. Alors Agé, le messager de Dieu, transmit au peuple le message suivant de la part de Dieu. « Moi je suis avec vous, l'Éternel le déclare. » Et l'Éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Yehotsak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu. Dieu va leur demander de rebâtir le temple. Et qu'est-ce que le peuple va faire? Là, c'est presque miraculeux ce qui se passe dans l'ensemble. Dieu, le peuple va écouter. C'est rare. Hein, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est rebelle. Et tous les autres prophètes avant, ils vont maltraiter les prophètes. Certains, ils vont les mettre à mort. Le peuple va mettre à mort les prophètes que Dieu envoie. Et le prophète âgé, lui, il est béni. Hein, parce qu'il dit des paroles assez dures. Et le peuple va écouter. Pourquoi il écoute? Parce que je pense que le peuple, ça fait 16 ans qu'ils sont revenus au pays, ils savent que c'est bon de revenir au pays. Et ils savent que Dieu est un Dieu de parole. Et que le prophète âgé, s'il ne l'écoute pas, il y a eu la première déportation, le peuple s'est dit, Dieu ne refera pas la même chose. Il y a eu la deuxième déportation, il peut y en avoir une troisième. Parce que Dieu va dire que ce qu'il compte quelque part, c'est que le peuple revienne à lui. Et qu'il utilisera tous les moyens pour que le peuple écoute. Le peuple, il sait que face à Dieu, ils peuvent être aussi obstinés qu'ils sont. Ils ont un Dieu qui est tout aussi patient. Et Dieu nous demande ce matin, quelque part, de nous mettre à l'action. Ce qui est beau, c'est que Dieu est à travers ce peuple, du coup, montre ici sa fidélité et surtout sa grâce, et que du coup, ils vont se mettre à l'action, ils vont rebâtir le temple, et on voit ici l'action de Dieu qui va conduire le peuple. Tout de suite, le peuple va remporter des victoires puisqu'il y aura des ennemis, hein. Vous relirez le livre d'Esdras, quand ils vont rebâtir le temple, Esdras et Néhémie, qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'ils étaient bien en train de construire leur maison, il n'y avait pas de problème, dès qu'ils rebâtissent les murailles et le temple, les ennemis arrivent. Il n'y avait pas d'ennemis avant, là tout d'un coup les ennemis arrivent. Et qu'est-ce que finalement Dieu va faire? C'est Dieu qui va intervenir, qui va libérer le peuple, qui va leur permettre de remporter des victoires. Et c'est peut-être le point, mettre Dieu au centre. Forcément qu'il y aura des combats. Forcément que spirituellement, il y en a un qui n'est pas content, qui fera tout pour décourager, pour dire, t'as bien vu, quand t'avais pas Dieu au centre, c'était tranquille ta vie, maintenant que tu remets Dieu dans la balance, c'est plus la galère. Ce que Dieu nous apprend ici, c'est d'être patient et de compter sur lui. C'est lui qui nous fait sortir ici des moments difficiles et qui nous permet de prendre de la hauteur, du recul. Avoir la paix de Dieu en nous. Durant les deux dernières semaines là, de congé, voilà, on a été dans nos deux familles, dans la famille du coup d'Eliette et dans ma famille. Et dans nos deux familles, voilà, comme peut-être dans vos familles aussi, hein, on a des personnes de nos familles qui ne sont pas au Seigneur. Et dans nos deux familles, avec Eliette et moi-même, on a au moins ce point commun, c'est que ceux qui sont à Dieu, ils sont à fond. Ceux qui ne le sont pas, ils sont aussi à fond. Mais c'est bien, au moins il n'y a pas d'hypocrisie. Hein. Y en a un dans ma famille qui est peut-être, mais du coup, il a un peu mal. Mais ouais, et ceux qui ne sont pas chrétiens, ils le sont vraiment pas, et ceux qui le sont, ils le sont à fond. Et on se revoit, on se voit. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ils savent, puisqu'ils ont été, ils ont grandi dedans. Et c'est intéressant parce que là, dans la famille d'Eliette, on a pris des nouvelles du coup de chacun, et notamment voilà, il y a son frère à Eliette qui est pas chrétien. Il a grandi dans l'église, hein. Il y a eu beaucoup de choses, mais voilà, il n'a pas mis sa vie en règle, et il est avec avec sa femme, avec qui il n'est pas marié, mais qui vit beaucoup de choses compliquées. 2025 a été très compliqué pour elle, elle a traversé un cancer, beaucoup de choses. Et c'est deux personnes que j'apprécie, puisqu'elles sont intelligentes. Elles sont intelligentes, elles ont du recul, elles sont travailleuses, et des bonnes valeurs. On peut ne pas être chrétien et avoir de très bonnes valeurs. Hein. Mais là, j'ai vu quelque chose, et avec mon beau-frère, on a constaté quelque chose d'assez fort. Alors moi, je suis pasteur, lui, il est président de son église. Bon voilà, il est très impliqué dans son conseil. Et en fait, on a entendu du coup ici, il a entendu son frère qui parlait de l'année qui va venir et qui s'annonce pas forcément plus réjouissante puisque sa femme, en fait, elle se fait licencier actuellement dans son travail. Ils ont une maison, un appartement à Paris. Vous connaissez les prix à Paris, c'est super cher. Et du coup, vu qu'ils ont bâti leur vie sans Dieu, tout prend une importance plus énorme. Le travail, les appartements, tout. Les enfants. Et du coup, ils rentrent ici dans une année pleine d'inconnus. Et on a senti l'angoisse. Une angoisse qui est pas positive. Quand on les entendait, j'avais l'impression qu'ils étaient à la rue. Alors que je leur ai dit, pire, vous vendez l'appartement. Paris, c'est pas non plus toute la France. Vous allez ailleurs. Je sais pas, il y avait... Et du coup, mon beau-frère parlait pareil en disant « Mais à chaque jour suffit sa peine. » Mais ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas parce qu'il n'y a pas Dieu qui est là. Et du coup, tout est pris sans recul, sans filtre. Alors avant de partir, je leur ai dit « Dieu vous cherche. » Dans l'épreuve que tu vis, il s'appelle Michael, dans l'épreuve que tu vis, Michael, Dieu te cherche. Alors bon, mon beau-frère, il ne parle pas beaucoup de foi. Donc quand je lui ai dit, il ne m'a pas répondu. Je l'ai pris un peu à part, parce que si je le prends en public, c'est encore pire. Il m'a pas répondu, mais je me suis dit, au moins, si moi je lui dis pas, qui va lui dire? Et je lui dis, voilà, ça fait 2 ans là maintenant. 2 ans que vous galérez. T'as bâti toute ta vie sans Dieu et ça a marché. Aujourd'hui, ça marche plus. Et qu'est-ce qui reste? Et aujourd'hui, je nous pose la question. On peut être chrétien, est-ce que Dieu est au centre en cette nouvelle année qui commence? Avec le peuple ici, dans ce dernier passage, il y a une promesse. Verset 13, Dieu va dire « Je suis avec vous, dit l'Éternel ». Voilà le cœur du message, ce n'est pas « Vous allez réussir, vous allez être riche, mais je suis avec vous ». Que vous réussissez ou pas, mais si Dieu est avec nous, notre paix ici est assurée. C'est tout ce qui compte. Une paix assurée. En ce début d'année, quelle est la première pierre que Dieu nous appelle à poser? Quelle obéissance simple, mais repoussée, est-ce que je repousse toujours le fait de placer Dieu au centre? Est-ce que quelque part, comme dit Gilles, je suis un véritable temple habité de l'action du Saint-Esprit? Habité de Dieu. Je vais conclure et je vais conclure par cette histoire. Il y a un missionnaire qui racontait qu'un homme assez aisé lui avait montré sa maison flambant neuve et lui avait dit ceci. Et c'est un missionnaire du coup qui, alors j'ai pas son origine, hein, mais qui était venu en France, dans le sud de la France, et qui avait vu sa belle maison. Et cet homme du coup disait, voilà, quand tout sera bien installé, je servirai Dieu plus sérieusement. Cet homme, il habitait à Grasse, la ville de Grasse du coup, dans le sud de la France. Et quelques années plus tard, il va tout perdre. Il va y avoir des orages, et lui, il y a la foudre qui va frapper sa maison. Et il va tout perdre. Le feu, c'est terrible, hein. Ça ne laisse rien. Il y a encore une inondation, on peut récupérer des trucs. Le feu, il n'y a plus rien. Cet homme, il va tout perdre, il va dire plus tard. Du coup, Dieu ne m'avait jamais quitté. Mais j'avais mis tant de choses entre lui et moi. Et il va dire, cette maison, je l'ai pleurée, mais quelque part, Dieu m'a fait comprendre. Alors que je disais que j'aimais Dieu, quelque part, il n'était pas au centre. Ce qui était au centre... Et il a repris ce texte de Agé, c'était ma maison lambrissée. Que j'ai refusé d'écouter. Et que quelque part Dieu a repris pour que je puisse recentrer, que je puisse quelque part lui laisser toute la place. Agé nous pose cette dernière question, qui construit quoi en ce début d'année? Qui est-ce que nous construisons? Comme je vous l'ai dit au début, hein, le problème, c'est pas de construire la maison. C'est quelle est la place de Dieu dans cela? Qu'est-ce que je mets au service de son royaume? Jésus va dire ceci dans Matthieu, puis nous allons prier. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous, on aime ce verset pour la suite. Tout vous sera donné par-dessus tout. Mais des fois, ce que Dieu nous donne, c'est pas ce qu'on attend. Mais ce n'est pas grave, si on cherche le royaume de Dieu et sa justice, tout nous conviendra. Je propose de prier. Courbons nos têtes. Seigneur, nous voulons commencer cette année, cette nouvelle année que tu nous donnes, et merci encore pour cela, par tes projets. Nous ne voulons pas seulement, mon Dieu, bâtir nos maisons, bâtir nos projets, continuer avec nos habitudes actuelles, mais te mettre pleinement, véritablement au centre de nos vies. Mon Dieu, tu sais, tu connais, mon Dieu, combien nous sommes, nous, êtres humains, facilement tentés, mon Dieu, à te mettre de côté. Nous ne voulons pas faire semblant, nous ne voulons pas faire les religieux, et mon Dieu, nous voulons cette année te mettre pleinement au centre. Peu importe, mon Dieu, ce qui se passera, et que ce que tu nous demanderas d'ailleurs, nous voulons t'écouter, compter sur cette fidélité. En ces temps, mon Dieu, qui sont difficiles, mon Dieu, où l'instabilité règne dans ce monde, nous ne voulons pas, mon Dieu, nous courir en vain. Nous voulons, mon Dieu, encore te remettre pleinement au centre. Tu es ce Dieu qui est bon, qui nous permet, mon Dieu, de bâtir nos vies, qui nous demande, mon Dieu, que nous te plaçons au centre de tout, de chaque décision, de chaque projet. pour que, mon Dieu, cette année qui vienne, nous ne soyons pas déçus. Parce que nous savons et nous saurons compter sur le fait que c'est toi qui as accompli tes plans. Tes plans qui ne sont pas les nôtres. Mais nous voulons encore nous appuyer sur cela et savoir que cela est bon. Parce que toi seul connais toutes choses. Amen. Que quelques voix s'élèvent.